Bonjour à tous, merci d'être là avec nous pour cette rencontre sur l'être humain rouage de la machine. J'ai la chance et l'honneur d'avoir comme invité pour discuter de cette question pas si simple que ça, Anna Sarovinets, dont vous ignorez sans doute pas qu'elle est la lauréate du Grand Prix Utopial Européen 2016 pour son roman intitulé « Le vivant ». J'ai à ma gauche Alain Damasio, qui est également, je n'ai que des auteurs sur cette table ronde en fait, qui est un auteur de science-fiction qui nous a écrit la Horde des Hurlevents. Entrevent, aïe aïe aïe, c'est l'émotion. Et Sylvie Lenné, qui vient de faire paraître un nouveau recueil. Alors c'est un recueil hardcover qui rassemble 26 de ses nouvelles et que je vous invite tous à découvrir comme tout le reste des ouvrages à la librairie, aux différentes librairies, tout de suite après cette table ronde. Et pour commencer, en fait, je vais lancer une question à brûle-pourpoint à mes invités, avec peut-être Sylvie comme première personne pour la réponse. Alors, quand vous pensez à rouage de la machine, être humain, quelles sont les images qui vous viennent en tête? Quels sont les auteurs? Quels sont les auteurs de science-fiction qui vous ont marqué le plus par rapport à cette question?
Alors, je pense que Estelle, en posant cette question, s'est souvenue d'un auteur de science-fiction que j'adore, qui est un auteur de nouvelles et de romans, qui a très bien parlé de l'homme comme rouage de la machine, mais d'une manière extrêmement drôle. C'est Robert Sheckley, qui est un des grands humoristes de la science-fiction. Et si je peux le raconter en 4 minutes, 3, il a écrit une nouvelle qui s'appelle Les spécialisés. Le principe de cette nouvelle, c'est que on se trouve à bord d'un vaisseau spatial assez étrange, puisque tous les organes de ce vaisseau spatial communiquent entre eux. Les parois discutent avec la voix, qui discute avec l'estomac, qui discute. Bon, chaque composant est en fait une créature extraterrestre assez surprenante, mais l'ensemble de ces créatures s'associent pour, à elles toutes, créer un vaisseau spatial. Et le vaisseau spatial tombe en panne parce qu'il y a un des organes qui est défaillant. C'est le pousseur qui est mort au cours de la dernière tempête. Et donc le vaisseau ne peut plus avancer qu'au ralenti. Il faut qu'il trouve une planète de pousseur. Et je ne vais pas tout dévoiler, mais vous vous doutez bien que la planète de pousseur sur laquelle ils vont tomber, c'est la Terre. Et que l'humain qu'ils vont attraper à bord et qui commence par être absolument terrifié va enfin prendre conscience du vrai rôle qu'il doit jouer et du sens qu'a sa vie, qui est de devenir le pousseur du vaisseau spatial, comme d'ailleurs devraient le faire tous les humains s'ils arrivent à trouver le sens de leur mission ultime. Donc voilà, c'est le moteur du vaisseau, et c'est bien comme ça, et il est comblé.
Alain ?
Moi, c'est marrant, je pense à deux images. Bon, la première, on l'a beaucoup en tête, c'est celle de Charlie Chaplin, évidemment, quoi. Donc l'explosion de la révolution industrielle, du Fordisme, et de voir ce corps au milieu des rouages, qui était une métaphore qui restait extrêmement prégnante, et simplement comment on la réactualise aujourd'hui. Et la deuxième, ça saute vraiment, c'est toujours du cinéma, mais ça saute à Matrix. C'est le moment où Neo sort de la couveuse dans Matrix, qui est quand même un moment, moi je trouve absolument magnifique de cinéma, et on prend conscience que le corps peut être utilisé, le corps humain qui nous paraît pour nous une sorte d'aboutissement de l'évolution, et une merveille organique totale qui sert uniquement de pile électrique pour des machines, quoi, sert de fournisseur d'électricité. Et en plus, on fournit cette électricité juste en vivant dans un monde virtuel qu'on croit réel. Donc c'est-à-dire que notre activité mentale ordinaire permet de produire l'électricité nécessaire aux machines, quoi. Et je trouve l'idée tellement atroce, tellement belle en même temps, que j'ai toujours été fasciné par cette acmé de Matrix. Ouais.
Anna?
Can you hear me? As for me, I think about Philip Dick. I'm not sure about am I correct in the title translation again from Russian into English? Do the androids dream of electricity ship? If electroships, is that correct? Do the androids dream about the electricity ship? And there is also a great film the Blade Runner. I think everyone knows that. And that is what interests me in this story is that the attempt to understand if there is any distinction between the actually the human feelings and the feelings of androids and their ability for compassion. As in this story, the ability of compassion is doubted, speaking about androids. But in reality, it turns out that the androids are those who really need the compassion. And it also seems that there is really no border between them. Both are creatures of someone who is more powerful. And then I think about Isiguro, Never Let Me Go. It is a great novel. This is the Japanese writer. He's originally Japanese, but he writes in English and lives in Great Britain. And that is approximately the same story. It's not about androids, but it's about people who were created specially for giving their organs to another people. And they also have feelings. They also suffer. They're afraid of death. And their lives are worthless, but in the same time, when you read this text, you understand that it is our mutual fate, that we are all doomed to die. We are all afraid of that, and there is no difference between us and those creatures who are made to serve us.
Est-ce que vous auriez envie de réagir directement ? Moi, je vois apparaître différentes visions de la machine, et surtout différentes relations, des relations qui sont de l'ordre de la collaboration et des relations qui sont de l'ordre de l'affrontement. Est-ce que ce sont les deux seuls moteurs qui animent ces relations et qui font qu'un être humain peut être un rouage, ou est-ce que vous en voyez d'autres ?
Alors déjà, le terme de rouage... Je le trouve assez péjoratif comme point de départ dans une question qui me semble être celle du projet collectif. Et pour moi, la question essentielle, c'est quel est le sens de ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on trouve que trouver un sens de manière individuelle et solitaire dans sa vie, c'est pas suffisant, eh bien, je ne vois qu'une autre manière de trouver du sens, à moins qu'il y ait des approches spirituelles qui sont pas trop dans mon registre. Mais trouver un sens collectif, c'est génial. Moi, je disais à la déléguée artistique de ce festival que je remerciais de m'avoir fait le plaisir de m'impliquer à ce point, je lui disais que c'était un bonheur d'être un rouage d'un si magnifique événement. On est tous des rouages, et à tous les niveaux, d'ailleurs, depuis le grand chef jusqu'à celui qui fait la mission la moins valorisante ou la moins visible. Et quand le projet a un sens, le projet du collectif, eh bien, ça devient génial d'être un rouage. Après, la question, c'est qui c'est le chef et à quoi ça sert. Donc si c'est la machine qui décide de l'objectif, oui, moi j'ai un problème. Mais je ne sais pas si être le rouage d'un système, c'est quelque chose, si c'est de ça qu'on est en train de parler, aucun problème.
Anna, j'aimerais bien vous faire réagir en relation évidemment avec votre roman où le vivant est composé de 3 milliards d'individus. Est-ce que vous voudriez nous raconter un peu le lien entre l'humain et le rouage dans votre roman, s'il vous plaît?
Well, in my novel, it's not exactly the machine. It's the construction of the society which makes all the humanity feel together, feel... The united creature, like ants do, and they are all connected into that one kind of multiple body with some kind of wireless brain to brain. And to me, it's kind of metaphor. Kind of metaphor of actually any totalitarian society in which we are all. Gears, but not only, by the way, normally in any society, even extremely liberal or democratic, still we all have our functions and we can hardly jump from our, you know, for our place to someone else's, and it is in a way it is good because otherwise it would be a chaos. But still, it could be there is always a danger that is that if the one who rules the society is not wise enough, or I don't know, doesn't like individual freedom, it can always become a frightening situation.
Moi, je vais essayer de justement de revenir au titre, parce que je trouve ça aussi très intéressant, ce titre Rouage de la machine. On est clairement dans un enjeu de ce qu'on appelle machine de deuxième génération, c'est-à-dire ces machines comme l'horloge, comme effectivement les chaînes de production, comme la machine à vapeur dont on a énormément parlé, peut-être trop parlé dans ce festival. C'est-à-dire que c'est comme si on essayait de poser la question de qu'est-ce que c'est un homme agi par la machine, ou un homme qui serait qu'une fonction de la machine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de poser ce problème-là en machine de troisième génération, c'est-à-dire dans le monde informatique qui est le nôtre, dans le monde des réseaux qui est le nôtre, et de se dire à quel moment dans nos vies quotidiennes, justement, on est rouage de cette machine, ou à quel moment on est agi par un fonctionnement machinique. Et c'est vrai que moi, ça me fait immédiatement penser à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à ce qui se passe quand on utilise des moteurs ou des recherches de type Google, c'est-à-dire cette sensation qu'en tant qu'être humain, on génère de la trace. Vous savez que sur le réseau, vous êtes en train en permanence de générer par vos scrolls, par vos clics, par les temps passés sur tel ou tel site, par les messages que vous envoyez, vous générez des traces numériques, et que ces traces numériques sont l'aliment numéro un, sont l'or noir massif de ces grandes boîtes que sont Google ou Facebook, c'est-à-dire que ces boîtes ne vivent uniquement de la revente de vos profils à des multinationales ou à des entreprises. Et dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que, de fait, le simple fait que j'envoie un message à un ami, le simple fait que je like quelque chose, le simple fait que je reste sur telle ou telle page ou j'aille sur tel site d'information, je suis producteur et je participe à une machine collective qui est celle du big data, et que cette machine collective est la plus grosse machine de production de la plus-value aujourd'hui dans le monde, quoi. Et on dit toujours cette phrase, mais qui est très limitée, de dire, voilà, si c'est gratuit, c'est vous le produit. En fait, la vérité, c'est que c'est pas ça. C'est que si c'est gratuit, c'est vous le producteur, c'est vous l'ouvrier dans la machine, ce qu'on appelle le digital labor, c'est-à-dire le travail numérique, le travail digital qu'on produit gratuitement et en permanence par le simple fait d'être sur le réseau. Et ça, c'est très nouveau. C'est-à-dire que vous faites des activités qui parfois sont passionnantes, mais en faisant ces activités, vous êtes partie prenante d'une machine générale, globale et très puissante de big data. Et que vous aidez à produire de la valeur. Voilà. Sauf que cette valeur vous est pas généralement restituée. Donc, l'être humain rouage de la machine, c'est simplement notre quotidienneté aujourd'hui dans le monde numérique. Voilà.
Sylvie, est-ce que tu veux rebondir ?
Oui, je voulais rebondir sur c'était Anna qui disait, ou je ne sais plus qui disait, on a tous un rôle à jouer. Un rôle à jouer, moi, ça me va bien. Mais ce qui m'ennuie, c'est quand on définit le rôle par l'utilité de l'homme et la rentabilité de l'homme. C'est-à-dire qu'on se demande. Est-ce que son activité est optimale, bien rationalisée? Est-ce qu'il est productif au maximum? Est-ce que son efficacité a été poussée à ses limites? Et comme on est dans un système complètement capitaliste, moi c'est ça qui m'effraie beaucoup plus que ce dont tu parles encore, Alain. On a ce maître au mot tout le temps. Et l'idée de définir la valeur des gens uniquement par leur productivité et leur efficacité, ça a des conséquences absolument terribles, et ça en a même dans le travail, puisque je l'ai déjà raconté dans une autre table ronde, donc pardonnez-moi si vous l'entendez pour la deuxième fois, je radote un peu, mais c'est juste pour dire que si vous avez eu affaire à des interlocuteurs ou des prestations du type service après-vente d'un provider numérique, moi en l'occurrence... service après-vente Orange. Vous avez des interlocuteurs, que ce soit en chat ou au téléphone, qui sont tenus de respecter une procédure extrêmement stricte. Au téléphone, on arrive encore un petit peu, mais attention, ils sont enregistrés à toutes les étapes de la conversation. S'ils dévient du canevas qu'on leur a fourni, ça peut se retourner contre eux. Donc ça restreint beaucoup la fluidité du dialogue que vous pouvez avoir. Mais par chat, c'est absolument terrifiant. Vous expliquez quel est votre problème et vous vous trouvez en face de quelqu'un au point qu'on peut se demander si on a affaire à une machine qui vous pose les questions dans l'ordre prévu et complètement indépendamment de ce que vous pouvez raconter, vous, de votre côté. Ce sera peut-être pris en compte un moment, on ne sait pas trop, mais on déroule la procédure. Moi, je pense aux êtres humains dont le travail est complètement vidé de son sens par la procédure qu'on leur impose et dont la compétence est réduite à néant. Donc, si on positionne la valeur de l'humain sur cette échelle de productivité et efficacité, on arrive à des drôles de choses où on perd le sens. Moi, c'est toujours le sens que je cherche dans l'activité. Donc, j'aimerais bien qu'on définisse le rôle, la valeur, par l'intérêt du projet collectif et aussi sur, alors je ne sais pas si c'est l'émotion, le bonheur, j'ai envie d'utiliser des tas de termes qui n'ont absolument rien à voir avec des questions de machinerie, d'efficacité et de productivité.
Ouais. Anna, est-ce que vous voudriez bien réagir sur Sylvie, sachant que dans votre livre...
That's a very interesting approach, really.
Et dans votre livre, quelle est la fonction des humains? Est-ce qu'ils ont une fonction? Est-ce qu'ils ont un objectif propre? Ou est-ce qu'ils sont tous...
Well, as it is a dystopia, what seems to be their function is not really their function, because in the end, it turns out that they all serve some kind of elite, some kind of those few people who really have power in that society. But during the whole story, it looks like the function of each element, of each human being, each element of the system is to make that mutual body healthy and immortal, because as there are plenty of people, the number is of them is fixed. So when one person dies, another one is born, the system works as if it is always simultaneously. One dies, then some 5 seconds go, another one is born, and it is the same person. It is said that it is the same person. He has the same code, and he has all the information about his previous life. So each person is doomed to continue the life of the one who lived before him. And he has to think that it is only his body that changed, but his personality is the same. And all those personalities form one big personality. So you have to make efforts to be healthy, to give birth to other personalities, so that mutual body would not become smaller. You know, you should maintain its health and its you should make it prosperous because you are a part of it. Finally, it turns out that that you actually gain nothing, you as a small part of it. You only work for the success of 9 people who are those who actually rule everything.
Et les émotions dans tout ça?
Well, it is a story in which all people pretend to have feelings they do actually not have, because instinctively, of course, no one wants to die. For them, dying, it is called pause. When it's time to die, actually, it is about when you are about 35 or 40, that's enough, because after that, you are a bit, you become a bit weak, you can be ill, or well, you can't. You are not that useful. So you have to go to the special festival. There are 2 different zones. The one is a zone of reproduction. People have sex there. Another one is the zone of pores. Then you go to the zone of pores after 35 or 40. 40 is maximum. No, actually, there are some people who don't want to go there, but they are forced to do that. So you go to the zone of pause, and you actually get killed there, but you can't say this word because there's no death. It's their main slogan. There is no death, so it's just pause. You go to zone of pause. A young woman goes to the zone of reproduction, has sex, and when you die, you only have 5 seconds of darkness. It is called that. And then you are reproduced. So, they, of course, they're all very tense. They are very nervous. They have to sing special songs, you know, about immortality. And they have to convince themselves from the very childhood that they are immortal and everything is very good. Not that they are doomed to death at 35.
Alain?
Ouais, moi je voudrais prolonger ce qu'a dit Sylvie, parce que je pense que c'est effectivement extraordinairement important ce qui se passe dans l'univers du travail. On a la chance, et Sylvie a participé un peu avec Norbert Merjanian et des membres du collectif Zanzibar qu'on a créé, c'est un collectif d'auteurs de science-fiction, de travailler sur l'avenir du travail dans le cadre d'une exposition pour la Biennale internationale de Saint-Etienne l'année prochaine. Et donc on a beaucoup travaillé sur les robots, les IA, le devenir machine. Et effectivement, une des choses qui est frappante aujourd'hui dans le monde du travail et dans cet aspect rouage de la machine, c'est qu'on a longtemps cru qu'on allait dépasser le Fordisme et qu'on allait vers le management de projet, vers une sorte de liberté, de motivation ouverte des salariés, etc. Et en fait, on se rend compte que le Fordisme n'a jamais été aussi puissant. Et il culmine, dans ce que Sylvie a décrit, il culmine dans les sociétés de services et notamment ces fameux services après-vente. Alors moi, j'ai eu les mêmes expériences récemment avec Orange et même je m'en inspire pour ma prochaine nouvelle sur demain le travail, parce que j'ai tenté une chose très simple. Quand vous décrochez Orange comme ça, j'ai dit simplement, il vous demande, c'est un serveur vocal hein, et donc il interprète votre voix, etc. J'ai dit, je voudrais un interlocuteur humain. La machine me répond, je voudrais un interlocuteur humain. Et j'ai dû le répondre, c'était 4 fois sur un dialogue de sourd, mais magnifique à remettre dans un livre. Mais qui montre quoi? C'est-à-dire que je sais parfaitement, moi, quand je téléphone, que j'ai affaire à un robot. C'est un chatbot, c'est un robot de conversation qui a été prédéfini, qui va recevoir ma voix. Et je sais que si je ne m'adapte pas à la machine, je ne vais pas pouvoir atteindre ce que je veux faire. Donc il y a toutes des stratégies d'évitement assez complexes pour essayer à la fin quand même d'avoir un interlocuteur humain, ce qui est une chance suprême aujourd'hui dans une économie extrêmement fordiste en fait. On essaie de minimiser l'interaction humaine parce que c'est elle qui est chère, quoi. Et du coup, moi ce qui me fascine là-dedans, c'est de me dire, il y a un devenir machine du travail, il y a un devenir machine des gens que vous avez au téléphone, quand bien même ce sont des humains, et c'est ce que dit Sylvie, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes des procédures parfaitement programmé, parfaitement scénarisé, parfaitement déroulé à appliquer, et il ne se comporte pas différemment d'une machine. Donc ça prépare la robotisation derrière qui va forcément venir. Donc vous avez un interlocuteur qui se comporte comme une machine, vous avez des consultants qui travaillent à mécaniser et à machiniser les interactions, et vous avez vous en tant que client et être humain à vous adapter, à devenir vous-même machine pour pouvoir être entendu, reçu et qu'on résolve votre problème. Donc il y a tout un devenir machine, et je le prends vraiment en termes deleuzien, c'est-à-dire le devenir chez Deleuze, c'est arriver dans une zone d'indiscernabilité, dans une zone de voisinage avec la machine qui fasse que la distinction entre homme et machine n'est plus possible. Et pour les gens qui travaillent dans ces call centers, pour moi le client qui appelle Orange comme tout service après-vente, eh ben, je me situe dans cette zone d'indiscernabilité avec la machine. Et donc c'est même plus est-ce que je suis rage d'une machine ou pas, je suis devenir machine, voilà. Et ça, c'est, je pense, extrêmement grave, c'est extrêmement quotidien. On l'accepte aujourd'hui, on s'y adapte parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement et parce qu'on veut résoudre notre problème téléphonique. Et malheureusement, ça se développe dans quasiment tout le secteur des services. Et comme le dit Sylvie, ça conjure évidemment tout ce qui est anormal, affectif, émotionnel, tout ce qui relève proprement d'une communication humaine, empathique, partagée. Donc cette faculté qu'a l'être humain d'accepter de devenir machine, d'accepter des métiers dans lesquels on est machine, et tout le monde dans ce système souffre. Tout le monde. Voilà. Le seul qui ne souffre pas, c'est peut-être l'actionnaire tout en haut, qui n'a jamais reçu un message téléphonique, qui ne sera jamais client non plus du service après-vente d'Orange. Mais tous les autres, le client souffre, la personne qui travaille dans le call center souffre, les consultants qui ont bâti ça certainement souffrent aussi. Donc voilà, on est en torsion par rapport à notre humanité en permanence. Voilà, c'est cette torsion vers devenir machinique. Elle peut être parfois jouissive, il y a des devenirs machiniques qui sont peut-être jouissifs, parce qu'on les a des fois sur le réseau. Hein. Moi, j'ai l'impression parfois d'être une pure machine à cliquer et à recliquer, à interagir. Mais là, je déconnecte le cerveau et ce devenir machinique-là, il est presque jouissif, mais c'est un devenir de fatigue. Mais dans le reste des situations, voilà, j'ai l'impression que je ne suis pas un rouage, mais je suis tordu, que ma vertèbre est tordue vers un devenir machinique que je ne veux pas assumer. Quoi. Ouais.
Eh bien, moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de politique là, quand on en est à ce stade, parce que on est dans une période très étrange où on est en train de transformer complètement l'organisation de la société humaine et où les politiques n'ont pas du tout l'air d'être concernées, puisqu'en gros, on les entend parler de ce qui va se passer à un horizon de 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais pas plus. Et alors, du coup, on est quand même dans une société où, comme disait Alain, une partie des métiers se transforme de manière à préparer un remplacement qui est déjà arrivé pour plein d'autres métiers. Ça fait longtemps qu'on n'achète pratiquement plus jamais de billets de train en les demandant à un interlocuteur humain. On va sur Internet ou sur la borne qui est dans la gare. Et il y a plein de métiers qui disparaissent comme ça. Et on considère que ceux qui travaillent sont des privilégiés. Donc, leur métier se vide de leur chance, de leur sens, mais ils ont bien de la chance par rapport à ceux qu'on accable de toutes les marques d'infamie, qui sont des chômeurs. Quelle honte, c'est fainéant, c'est parasite. Y a des chômeurs, il y a des salariés qui se suicident dans un certain nombre de structures, mais quand on est chômeur, c'est terrible. Et ça, on ne va pas résoudre le problème autrement qu'en donnant la justification de notre rôle dans la société, de notre place à jouer, d'une autre façon que par le travail, puisqu'on fait travailler les machines à notre place. Et pourtant, il y aurait bien d'autres manières de donner du sens. On pourrait déjà s'occuper les uns des autres. Et je vous avoue que moi, je suis toujours troublée quand j'entends dire l'intelligence artificielle. Parmi les applications merveilleuses dont elle entr'ouvre la porte, il y a le rôle de l'assistance à la personne. L'assistance à la personne, assister les personnes isolées, non autonomes, qui ont besoin d'être soutenues. Est-ce que c'est vraiment une perspective réjouissante que de se dire, même ce boulot-là, on va essayer de s'en débarrasser pour le confier à des machines? Je trouve ça terrible pour les gens qui ont besoin de soutien, mais je trouve ça aussi terrible si nous nous dépossédons de ce rôle-là qui me semble avoir un sens particulier beaucoup plus fort que celui de la productivité qui, de toute façon, va trouver son terme quand il n'y aura plus de ressources ou quand il n'y aura plus de... Bon, moi, je suis un peu fatiguée, c'est peut-être pour ça, mais c'est pas pour envoyer un message pessimiste, c'est pour dire... Essayons au moins d'encourager nos politiques à réfléchir à cette question du sens, de la signification du rôle que nous avons à jouer dans une société autrement qu'avec les normes habituelles et les systèmes de mesure habituels. On a besoin de le faire.
Alors, je vais rebondir sur ce que tu nous dis et en revenant à ton premier exemple, l'exemple du pousseur heureux. Est-ce que, auteur de science-fiction que vous êtes tous les trois, vous auriez des idées de société, de situation qui permettrait à l'être humain d'être un rouage, entre guillemets, heureux de l'être dans une société future? Plutôt qu'une dystopie, par exemple.
I feel myself inside some dystopia because I have to make like you untranslated from French into English. My English is not really great, so I have to translate that English into Russian, and I'm not sure actually what I get finally is exactly what you say. But these are the people and machines that help us to communicate. By the way. I see no positive scenario, actually. I think, if I could imagine something positive, I probably would write some utopia, not dystopia, So that, about how people could successfully be wheels of the system and have compassion in the same time. So, but I don't think it's possible. I think we are playing with. I think as the machines became, in a way, our extension, and we do not understand how they function entirely. When we function as those machines, whose functioning is not clear to us, we play a dangerous game, and actually, it cannot end in a good way, I think.
Moi, je vais être plus positif là-dessus, parce que voilà, sur ce thème de l'avenir du travail, moi, bon, je pense qu'il y a une solution qui est très simple, mais il faut l'assumer politiquement. Il faut l'assumer éthiquement et sociologiquement, qui est de dire, poussons effectivement à l'extrême ce mouvement d'automatisation, de mécanisation. Faut savoir quand même que sur le journalisme, par exemple, dans une quinzaine d'années, on considère que 90% de l'information produite sera automatisée, que chez les juristes, la recherche de jurisprudence déjà est complètement automatisée, mécanisée, que les métiers d'agents d'accueil, de médecins, de fournisseurs de diagnostics, d'assistants effectivement personnels, de profs, tous ces métiers rentrent dans le champ possible aujourd'hui grâce aux IA ou à cause des IA, dans le champ possible de l'automatisation. Et la question que je me pose, c'est que je me dis, bon, à partir du moment où un métier est automatisable, à partir du moment où un métier peut être transformé en séquence de code répétitive, itérative, et être confié à des IA, eh bien, confions-les à les IA. Et permettons de libérer l'homme vers les tâches les plus ouvertes, les plus empathiques, les plus créatives, les plus émotionnelles. Donc c'est de dire quoi ? C'est de dire si on a la faculté, et c'est là que l'enjeu du capitalisme est fondamental, si on a la capacité effectivement d'automatiser et de robotiser un ensemble d'activités, faisons-le et distribuons un revenu universel à l'ensemble des citoyens. Et sans condition de ressources, sans condition de travail, tout le monde doit pouvoir toucher ce revenu universel parce qu'il est produit par une productivité machinique dont tout le monde doit pouvoir bénéficier. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau scientifique, c'est des millénaires et des millénaires de recherche, d'évolution, d'invention, de génie qui ont abouti à ce qu'on a aujourd'hui, qui ont abouti aux robots, aux automatisations qu'on a aujourd'hui. Tout le monde mérite et doit hériter de cette fécondité machinique et de cette richesse machinique. Et par contre, ça doit libérer du temps pour l'échange et pour les activités qui sont proprement et noblement humaines, qui sont d'avoir des émotions ensemble, de partager ensemble, d'être solidaires, de s'écouter, de s'occuper les uns des autres, de prendre soin les uns des autres. Et je pense que ça, ce n'est possible politiquement, sociologiquement, qu'avec le revenu universel, qui commence à être largement débattu, commence à être une notion qui rentre dans les têtes. Mais aujourd'hui, il y a encore ce couplage judéo-chrétien entre mérite, le revenu doit dépendre d'un mérite, ce mérite doit dépendre d'un effort, et cet effort doit se résoudre dans le travail. Je crois qu'il faut complètement découpler le revenu et le mérite. On mérite tous d'avoir un revenu universel, on mérite tous de bénéficier de la richesse qu'a produit l'humanité entière jusqu'à maintenant. Et on doit arrêter de considérer que les détenteurs des moyens de production, c'est-à-dire les capitalistes, sont ceux qui doivent bénéficier de cette richesse-là qui a été produite par tous, quoi. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça.
Il y a au moins un auteur de science-fiction qui a réfléchi à l'après, dans une société où on est capable de produire des richesses illimitées, et où il n'y a plus aucun obstacle matériel. C'est Yann Banks et son monde de la culture. Et moi, je le trouve totalement fascinant, l'univers de Yann Banks, parce qu'il est à la fois très irritant et extrêmement réjouissant. Alors, il y a une dimension collective, c'est celle de l'univers de la culture, mais il faut dire que la plupart des personnages qu'on y rencontre, moi, je les perçois un peu comme des dandys, assez individualistes et occupés de leur propre épanouissement, mais ça les rend pas déplaisants. Et c'est peut-être. Et en fait, Banks pose vraiment la question de, une fois qu'on n'a plus à courir après rien, ni pour se nourrir, ni pour s'habiller, ni pour se déplacer, qu'on a gagné grâce aux générations antérieures, grâce à l'évolution de la science et de la technique, on a gagné la liberté totale. Et il pose la question, qui n'est pas évidente, qu'est-ce qu'on fait de tout ce temps et de toute cette liberté ? Et surtout quand on a une durée de vie qui s'est très nettement allongée. Et voilà, potentiellement, tout est possible. Qu'est-ce qu'on fait ? Ils font tous leurs choix. Et c'est assez génial. Ça a un côté, c'est pas forcément des rouages d'une machine. Parce que la culture, La culture, elle a juste un objectif de se répandre, comme le fait tout empire ou toute civilisation qui se sent meilleure que les autres. Donc, aux frontières, il y a quelques conflits. Mais il n'y a pas vraiment d'objectif collectif autre que de répandre les bénéfices de la culture sur l'ensemble de l'univers. Mais après, les trajectoires individuelles, elles sont rigolotes.
Là, je voudrais revenir sur le vivant avec son nombre fixe d'individus qui constituent l'ensemble unique. Le fait que le vivant reste stable en nombre, et justement, il y a tout un enjeu derrière ça. Quelle était votre volonté en le faisant, l'idée de ne pas s'étendre et est un choix lié à des problématiques de disponibilité des ressources, de disponibilité d'énergie ou d'autres choses?
Actually, that was not about the availability of resources. When that idea came to me, in Russia, it was like what we call the period of stability. That's why I use that word stability so often in the book. It was like we had 90s, extremely unstable, poor, with killing people with bands, you know, in the streets. And then after, when the new century began, we had what was called on TV and everywhere the period of stability. And it was extremely popular to say, I once, as a journalist, I visited a university. I had to write an article about young students, like 20 years old people. And those 20-year-old people said, I asked them about what they think about the political situation, about Russian history, about the president, everything. And they answered me, many of them answered, well, I'm extremely satisfied because I like the stability. That stability turned out to be fake, actually. So we have, no one could say we have stability now at the moment. At that time, I thought it is obvious that is not stability, that is what seems to be stability. That is a very thin surface of stability, and beneath it is darkness, actually. So I wanted to exaggerate that situation, and I exaggerated it into dystopia, like into the society which cares only about reproducing itself in a stable situation, and the society which psychologically feels very uncertain and tries to convince itself that it's very stable.
Vous voulez réagir?
Je trouve ça très intéressant parce que on se rend compte à quel point l'arrière-plan culturel ou l'arrière-plan politique en science-fiction est fondamental. C'est-à-dire que certainement, moi, lecteur français, j'aurais absolument pas compris cet enjeu de la stabilité et la charge critique que ça peut avoir si tu nous l'expliquais pas, quoi. Tu vois, c'est des choses qu'on n'aurait pas pu deviner. Donc, il y a toujours souvent un arrière-plan ou en tout cas une sorte de sous-texte culturel qui est très fort et qu'on peut parfois parfaitement rater sur des auteurs étrangers, quoi.
Sylvie?
Je suis en train de réfléchir aussi et d'essayer de mesurer toutes les formes de lecture qu'on peut avoir du monde et de la manière dont il change. C'est très riche, oui.
Je pense qu'il est, oui, il est l'heure en fait pour vous poser des questions. J'aimerais bien que vous puissiez poser. Ah ben voilà, voilà une première qui arrive. Monsieur,
madame, lors de cette, elle est bien réglée. Lors de cette table ronde, on a pu évoquer deux enjeux autour de la mécanisation du travail par rapport aux impératifs de productivité, et par ailleurs le fait d'être générateur de traces informatiques par rapport à l'internet. et lors de d'autres tables rondes, on a pu mettre en lumière l'importance d'évaluer la machine en fait au cas, par rapport à quelle machine on était en train de penser. Et moi, j'aurais aimé porter l'attention sur une machine qui est en train de s'institutionnaliser, à savoir la machine à compter les moindres variations électriques de courant dans les domiciles. Et donc, par rapport à la problématique deleuzienne d'être devenir machine, c'est-à-dire que jusqu'ici, on avait consenti plus ou moins de fait au GPS anodin dans les smartphones, au GPS anodin dans les cartes d'identité nationale suivant les États. Et donc là, on arrive à quelque chose en fait qui touche au domaine de la sphère de la surveillance, couplé à l'impératif de rationalisation des ressources énergétiques et écologiques. Et moi, ça me fait fortement penser, enfin, je suis en difficulté pour penser cet objet puce à compter le courant électrique dans les domiciles. Ça m'évoque quelque part, d'un point de vue dystopique, 1984, avec l'avènement des télévisions à double miroir. C'est-à-dire qu'au final, sans vouloir activer de sphère paranoïde, on arrive quand même à quelque chose qui a donné lieu à des tests de hacking, d'un point de vue positif et négatif. C'est-à-dire que les enjeux sont relativement importants. Et cet objet donne lieu déjà à de la désobéissance civile, au sens de Thoreau, à savoir accepter ou non ou pas la substitution du matériel. Et donc j'aurais aimé savoir si vous aviez déjà eu l'occasion de penser cet objet, plus à compter les variations de courant électrique, avec les implications potentielles.
Ouais, bien sûr, tu parles du compteur Linky, c'est ça le...
Oui, oui, effectivement.
C'est un exemple fabuleux pour moi, extrêmement intéressant, parce qu'il montre qu'une innovation technologique, en tout cas une amélioration technologique de la précision, tu vois, du domaine du performatif, c'est-à-dire que c'est plus précis dans la comptabilisation effectivement de la consommation énergétique et de ses rythmes, permet en contrepoint et en creux de lire parfaitement le cycle de consommation d'un foyer. On sait à quel moment les gens prennent des douches, à quel moment ils se lèvent le matin, à quel moment ils vont se coucher, à quel moment ils éteignent la lumière, etc. Donc très facilement, avec ce nouveau type de machine, on va effectivement pouvoir fliquer de façon extrêmement subtile ce que les gens font dans leur logement. Encore une fois, ce n'est pas l'aspect individuel et personnel qui compte ici, c'est l'aspect statistique. C'est l'aspect big data qu'on va pouvoir en tirer. Mais par contre, si on veut... Et c'est toujours pareil, c'est-à-dire que oui, c'est statistique et global, mais si on veut être individuel et personnalisé, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on traite des masses, mais on traite aussi des individus dans les masses. Donc il y a un danger immédiat qui crée. Mais à quoi ça fait penser ça? Moi, à chaque fois, je me dis, un des problèmes de ce monde-là, et une des grandes difficultés, c'est le couplage entre technologie et capitalisme, et c'est le couplage qui s'effectue au nom de la computation, c'est-à-dire au nom du calcul. C'est-à-dire qu'on est dans un monde quantifié. Voilà. On est dans un monde où la quantification est devenue une sorte de graal, une sorte d'évidence, une sorte d'horizon indépassable du temps, quoi, tu vois. Et c'est-à-dire que tout doit être quantifié, tout doit être mesuré, tout doit être évalué. Je ne sais pas si vous regardez le nombre de fois dans une existence et dans une année où vous allez noter un hôtel, vous allez noter le gars qui vous a vendu le truc sur le bon coin, vous allez noter tel voyage, tel copain, etc. C'est-à-dire que vous êtes constamment en activité d'évaluation. Je ne parle même pas du boulot, je ne parle même pas de la généralisation des procédures d'évaluation dans le service public, etc., qui était, à mon avis, une énorme catastrophe aussi. C'est-à-dire qu'on est dans un monde calculé, dans un monde, et là, on revient à l'être humain rouage de la machine, c'est-à-dire que pour que la machine puisse travailler, pour que les machines de troisième génération, donc informatiques, puissent travailler, ce qu'on leur fournit doit être computable. Ce qu'on leur fournit doit être évalué et mesuré. Voilà. Donc, on n'arrête pas de construire nos vies pour capter. Et là, vous voyez la génération des capteurs partout, pour capter à partir d'objets des éléments computables. Voilà. Et une fois que ces éléments sont computables, la machine peut fonctionner parce que c'est sa nourriture, et elle peut calculer, elle peut mettre en branle la gouvernance algorithmique qui est le grand, à mon avis, le grand sujet politique actuel. Voilà, c'est-à-dire qu'on va être gouverné par des algorithmes, on est déjà gouverné par des algorithmes, mais pour que ces algorithmes fonctionnent, c'est-à-dire qu'au départ, on accepte qu'on soit computé. Donc, moi, Linky, je ne l'accepterai pas chez moi, je refuserai d'installer ça, je me battrai contre ce truc-là. Je reçois sans arrêt des mails sur ce truc et je vais essayer de participer et d'aider, en tout cas, à freiner l'avènement de ces choses, parce qu'on est typiquement dans un type de machine qui va, encore une fois, finir par nous rétro-aliéner à force. Voilà. Donc, si on veut rester réellement humain, si on veut garder cette liberté, ce champ de liberté humaine, il faut qu'on limite le champ du quantifiable. Et ça, je crois qu'on ne s'en rend pas assez compte. Et à un moment donné, il faut limiter le champ du quantifiable et se dire, nos vies sont qualitatives. Voilà. Ce qui compte, c'est la qualité de nos vies, ce n'est pas la quantité qu'on va mesurer ou qu'on va faire mesurer à travers les outils technologiques. Et arrêtons de nourrir le monstre avec de la computation, du calcul et de la mesure. plein de choses ne doivent être incommensurables. Le gratuit est incommensurable, l'amour est incommensurable, le don est incommensurable. Sortons d'une société du mesuré, du calculé et du quantifié. Ouais.
On n'est pas exactement sur les mêmes positions avec Alain, même si globalement ça se rejoint. Moi, j'ai pas peur du monstre. Le big data, bon, c'est des techniques que je connais. Le fait qu'on laisse des traces, bon, ben, on laisse des traces. Je me souviens, il y a longtemps déjà, quand on a commencé à introduire les premiers systèmes informatisés dans les bibliothèques et qu'on a commencé à introduire des systèmes de gestion automatique du prêt où on s'en enregistrait les sorties d'ouvrages et les retours, on a tout de suite été conscient du fait qu'il ne s'agissait pas simplement de faire gagner du temps aux bibliothécaires à la banque de prêt pour qu'ils aient à noter moins de choses dans un grand cahier. Il s'agissait surtout de pouvoir faire des statistiques globalement sur les ouvrages qui sortaient le plus. Et il était potentiellement possible de suivre les centres d'intérêt de quelqu'un. Mais tout le monde s'en foutait des centres d'intérêt de quelqu'un. Par contre, pour la politique d'acquisition d'ouvrages, ça a été utile. On voyait ce que les gens avaient envie de voir développer comme domaine. Donc moi, globalement, les traces, le contrôle, l'accumulation, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est le discours au sein duquel on positionne ça. Discours, en gros, qui essaie de viser la sécurité absolue. On nous parle tout le temps de sécurité, de contrôle, ne plus courir de risques. On est dans une société qui veut faire du contrôle fric tout le temps. Pas fric, FRIC, hein, enfin, qui veut avoir le contrôle absolu sur... qu'il n'y ait pas de prise de risque. Et au nom de cet argument-là, ben vous voyez bien, on peut surveiller n'importe qui, c'est nécessaire, parce que peut-être qu'il y a des terroristes quelque part. Et alors là, avec ce raisonnement insidieux, effectivement, mais c'est à cause de cet objectif de sécurité, on va pouvoir tracer n'importe qui a la malchance d'avoir un voisin de palier dont le fils est ami avec la concierge du type qui a posé une bombe quelque part. Et là, tout d'un coup, on plonge dans 1984 sans avoir compris pourquoi et comment. Et le type qui dit, moi, de toute façon, j'ai rien à me reprocher, ça ne m'ennuie pas qu'on me piste et qu'on me trace, il est bien naïf parce que le cheminement qui peut le mettre du côté des gens qu'on surveille, il est totalement imprévisible. Mais bon, c'est l'aspect sécuritaire qui m'inquiète.
I generally agree, but sometimes quantity does lead to quality. For instance, when there is a statistics concerning like the reactions of people in hospitals, for instance, when they know the bad diagnosis, how they react, and how should a psychologist or a doctor react in return. That is computerized. They do have statistics of how... of what would be the reaction of the patient in this or that situation, but in the same time, and the doctor is not really, he is not your friend, he doesn't really feel compassion, but the computerized system helps him behave in a way, showing compassion, which finally helps that, for instance, the patient. It's just a little example. Generally, of course, that is very true.
Merci. Une autre question qui doit être très courte.
Oui, bonjour.
Alors, je voudrais revenir sur quelque chose qu'a dit Sylvie Lainé vers le début de... Je suis là. Vers le début de cette table ronde. Concernant le bonheur que c'était d'appartenir à un projet quand on était d'accord avec le sens que ce projet avait, et que finalement, on ne se concentrait pas vraiment sur la fonction qu'on avait en tant que rouage dans le projet, mais vers où il nous emmenait. Et moi, qui sors d'une école d'informatique, j'ai aussi appris le management et j'ai fait de la gestion de projet. Je me posais la question, j'ai aussi vécu ce bonheur, soit en tant qu'employé, soit en tant que chef sur un projet. Et je me posais la question de si la gestion de projet et le management par projet était vraiment... J'ai l'espoir que c'est une solution pour avoir du bonheur au travail et pouvoir être d'accord avec le sens vers lequel on marche plutôt que de se concentrer sur sa tâche qui pourra paraître répétitive. Et je me demande si Vous qui avez l'expérience de tous les projets que vous avez pu mener, si vous trouviez que cette gestion par projet permettait de se sentir heureux dans le travail qu'on achevait.
Alors, je vais répondre très vite, mais la gestion de projet peut être un fil conducteur génial. Si on y rajoute démarche qualité, certification qualité, ça devient épouvantable parce que justement, on a l'obligation de respecter des traces, d'avoir des procédures et de produire, c'est ce qu'on appelle la traçabilité de la prise de décision ou des actions qui sont développées. Et alors, à ce moment-là, on est complètement, peut-être pas pendant la conception, mais après, pendant la mise en œuvre du projet, complètement englouti dans des phases où la créativité est complètement étouffée, asphyxiée. Donc, de toute façon, l'intérêt est toujours du côté de la création, de l'innovation, de l'idée de départ. Et puis, après, il y a le contexte. L'entreprise fournit des contextes difficiles, mais le service public aussi. Ces derniers temps, ça ne s'arrange pas.
Alain, tu veux réagir ? Non, c'est bon. Une dernière question.
Oh, j'ai de la chance. Bonjour, du coup. Je voulais savoir, en fait, c'était pour revenir à l'idée des compteurs Linky. Est-ce qu'il serait possible d'imaginer une société où non pas par rapport à ces objets-là qui permettent de quantifier une consommation d'électricité, bon, je prends l'exemple des compteurs Linky parce que là c'en est même grossier, mais en fait où ce serait dans l'idée où considérer en fait au compteur en tant qu'agent consommateur et non pas en tant que personne, et à partir de là de dépersonnaliser en partie et d'essayer d'imaginer des modèles sociétaux qui pourrait rendre absurde la surveillance, autre que par pure vice, par voyeurisme, bref, une société où ce ne serait pas rentable de fliquer à ce point les gens.
Qui veut répondre ?
Mais tout est imaginable, bien sûr, mais si tu veux, voilà, c'est... Je suis désolé d'être basique et de parler de propriété des moyens de production, mais là, on est dans un cadre où... où c'est le RDF qui possède ces compteurs, qui va les implémenter et qui donc va décider de ce qu'il en fait, bien sûr. Bien sûr qu'il y aura des moyens d'anonymiser ça, de trouver même des procédures qui permettent de pas pouvoir retracer ou fliquer une personne individuelle, mais c'est pas ce qui va se passer, parce qu'on n'est pas propriétaire de ces moyens de production-là. Donc on revient au capitalisme et à l'enjeu du capitalisme le plus basique, quoi, tu vois.
Puis on les revend, toutes ces informations. Elles font l'objet d'un commerce qu'on ne soupçonne pas en général.
Et le pire, c'est que ces données, c'était des données, mais ils en sont propriétaires parce que c'est eux qui possèdent l'objet qui permet de prélever la donnée, quoi. Tu vois, ce qui en soi est scandaleux, quoi. Tu vois aussi, quoi. Mais...
On va.
Une dernière.
Allez, une dernière question, la dernière de toutes.
Oui. Du coup, la question, c'est, on voit qu'on est entre le bonheur de faire partie de ces rouages, le danger de tomber, de ne plus voir la fin de la roue comme le hamster, et est-ce que la solution ce serait pas d'être parfois son propre grain de sable en fait, et d'être capable soi-même de prendre conscience de ce rouage et de d'en sortir volontairement et de dire on sait pas vers quoi on va en fait, sortir d'une démarche projet-produit pour aller vers une véritable démarche de projet où on fait et on ne sait pas ce qu'on va faire.
J'ai une réponse très bête, mais je crois que c'est exactement pour ça qu'on aime écrire et qu'on aime lire de la science-fiction. Notre grain de sable, c'est ça. Ça sert exactement à ça. Donc je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire.
Je pense que c'est un joli mot de la fin. Tu veux
j'ai juste un petit mot là-dessus. Moi, je dis toujours l'avenir du terrorisme, c'est l'errorisme, le vrai terrorisme intelligent, ou en tout cas humain, constructif et créant des chocs de conscience intéressants politiquement, c'est l'errorisme, c'est-à-dire c'est être le grain de sable dans la machine, mais surtout être le grain de sable dans sa propre machine, peut-être, effectivement, parce qu'on a une faculté aujourd'hui à être dans la servitude volontaire et être dans le devenir machinique, comme on l'a dit tout à l'heure. On est très très bon pour répéter, pour itérer, pour faire la même chose que les machines, on s'y sent bien, et je pense que ça nous repose. Et ça nous défatigue de faire ça. Eh bien, t'as raison, soyons le grain de sable dans la machine qu'on se constitue nous-mêmes.
Anna, un dernier mot ? Alors, eh bien, écoutez, je vous remercie tous et je pense qu'on peut remercier nos invités pour ces échanges très fructueux qu'ils ont eus. Merci à vous.